BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Votre intimité prend l'air jusqu'à 18h, votre intimité patrimoniale, on va mettre à nu les placements, l'heure dessous, pour vous aider à choisir ceux qui répondent à vos besoins. Bienvenue à tous, on va avancer au rythme des marchés, bienvenue et bien sûr, tout au fond de l'après-midi. Et ce CAC 40 bien orienté aujourd'hui encore est plus 0,9% en ce moment, le CAC 40, plus de 7100 points, notre indice presque au plus haut de l'année, l'indice CAC 40. Et alors ce qui est frappant, c'est qu'on préserve nos gains, les gains qu'on a accumulés, qu'on a affichés depuis ce matin, malgré les indicateurs américains qui auraient pu au contraire inquiéter les marchés. Parce que les indicateurs américains sont assez extraordinaires aujourd'hui, ils sont largement meilleurs qu'attendus, ce qui du point de vue de la Fed sera donc sans doute une mauvaise nouvelle. On voit d'ailleurs les taux qui remontent aux États-Unis. Quels sont les indicateurs américains du jour ? Déjà sur l'emploi, les inscriptions, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage qu'on attendait en hausse, on les attendait à nouveau à plus de 200 000, et bien finalement elles reculent encore, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, à seulement 186 000. Décidément, la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine, a bien du mal à refroidir ce marché de l'emploi. On va en parler. L'autre indicateur, les commandes de biens durables, on les attendait en hausse d'à peu près 2,5%. Que nenni, le chiffre est deux fois supérieur aux anticipations, plus 5,6% les commandes de biens durables le mois dernier aux États-Unis. Cette économie américaine qui n'en finit pas de surprendre, ce qui entraîne donc les taux à la hausse. Et puis on parlera aussi dans un instant du PIB américain du quatrième trimestre, lui aussi est meilleur qu'attendu. Stéphanie Colo nous livrera le détail, ce sera dans une poignée de secondes. Mais elle est impressionnante, cette économie américaine, et les marchés actions aussi le sont impressionnants. On le disait, puisque cette fois, les bonnes nouvelles sont interprétées comme telles, en tout cas pour l'instant. On verra comment ça se passera à l'ouverture de Wall Street. Mais pour l'instant, en Europe, malgré ces indicateurs du jour, on n'a pas de correction. Et le CAC préserve ses gains, les gains qu'il affichait depuis l'ouverture. On gagne quasiment 1% en ce moment. Les publications, il faut le dire, en plus, sont plutôt positives, plutôt favorables. En Europe, on a presque le sentiment, alors on verra, on n'est qu'au tout début, mais on a presque le sentiment pour l'instant qu'elles sont un peu meilleures en Europe qu'aux États-Unis. Mais on va rester prudent, on n'est vraiment qu'au tout début. Mais aujourd'hui, on a des publications saluées, celle d'STMicroelectronics. Puis on suivra ce soir, bien sûr, LVMH après la clôture. On vous donnera, on essaiera de vous livrer les détails de la publication d'LVMH d'ailleurs tout à l'heure en direct aux États-Unis. C'est Tesla qu'il faudra tout à l'heure suivre, bien sûr, à l'ouverture. On y sera à New York, on va rejoindre Sabrina Quagliozzi. Et puis dans l'immobilier, Paris sera toujours Paris. Paris est, d'après une étude de Barnes, la ville au monde la plus plébiscitée par les plus riches, devant Miami qui n'arrive qu'en deuxième position. Paris en immobilier. Pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, est-ce que ça vaut le coup d'investir à Paris ? Est-ce qu'il faut attendre une baisse des prix pour revenir ? Quel quartier ? Quel type de bien privilégié ? On en parlera avec Pascal Bonnefille pour ImmoWeek dans quelques minutes. Voilà le menu, on est à vos côtés, on joue dans votre camp pendant 3 heures et tout de suite, donc Stéphanie nous rejoint, Stéphanie Colo, pour parcourir l'ensemble de l'actu du jour en démarrant par cette autre bonne surprise du côté de l'économie américaine, le PIB du quatrième trimestre.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, c'est la croissance américaine qui reste solide au quatrième trimestre. Selon une première estimation, le PIB progresse de 2,9% en rythme annualisé tiré par les dépenses des ménages. C'est plus qu'attendu. Sur l'ensemble de 2022, la croissance dépasse les 2% à 2,1%. Toujours aux États-Unis, la reprise du trafic aérien se confirme avec les résultats d'American Airlines. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires progresse de 16% par rapport à 2019, à plus de 13 milliards de dollars. C'est mieux que prévu. La compagnie dégage 127 millions de dollars de bénéfices nets sur l'année. Le feuilleton Renault-Nissan proche de la fin. Après des mois de négociations, les deux constructeurs finalisent la refonte de leur alliance. Ils devraient dévoiler leur accord le 6 février prochain à Londres, selon Reuters. Toujours dans le secteur, Suzuki annonce un investissement massif, 32 milliards d'euros, dans les véhicules électriques à batterie d'ici 2030. Le constructeur prévoit de les commercialiser en Europe et en Inde. Changement surprise à la tête de Toyota. Koji Sato devient le PDG du premier constructeur mondial. Il en était jusqu'à présent le directeur opérationnel. Il remplace Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur en poste depuis 2009, qui va prendre désormais la présidence du conseil d'administration. Les projets de lithium se multiplient en Europe et notamment en France. Après Imerys dans le Massif central, Eramet et Électricité de Strasbourg signent un protocole d'accord exclusif. Les deux groupes envisagent d'extraire en Alsace 10 000 tonnes par an de lithium, ce qui correspond aux besoins de 250 000 batteries de véhicules électriques par an. On apprend aujourd'hui que Total Energy est visée par une enquête pour greenwashing. Elle a été ouverte en décembre 2021 par le pôle économique et financier du parquet de Nanterre. Elle fait suite à une plainte au pénal de plusieurs associations de défense de l'environnement. 10 milliards d'euros, c'est ce qu'ont coûté les catastrophes naturelles en France l'année dernière, un record depuis 1999. En cause, l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes et une augmentation de leur fréquence, selon France Assureur. Et puis, on termine par un mot de la réforme des retraites et du mouvement de contestation. Aujourd'hui, les raffineries, les centrales électriques, mais aussi les ports sont en grève pour une durée de 48 heures. Les expéditions de carburant sont interrompues dans la plupart des site de Total Energy. Mardi prochain, la grève touchera tous les secteurs à l'appel de tous les syndicats, Guillaume.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Stéphanie, on va continuer de parcourir l'actu du jour tout au long de l'après-midi et voir comment les marchés digèrent ces incroyables indicateurs américains, tous meilleurs qu'attendus aujourd'hui. On va d'ailleurs tout de suite rejoindre depuis la tour Euronext Étienne Braque depuis la salle de contrôle du CAC 40. Étienne, on est ravis de vous retrouver. Tiens, serait-on, je ne sais pas, vous allez nous le dire, sur un nouveau plus haut annuel sur le CAC à l'instant là, Étienne?
Eh bien, en tout cas, on a un CAC 40 qui retrouve les 7100 points pour la première fois depuis 10 jours. Alors, on n'est pas sur des plus hauts annuels, mais on est quand même toujours proche des records historiques. Si vous regardez le CAC 40 GR, c'est-à-dire dividendes réinvestis, on est toujours à moins de 3% des plus hauts. 7114 points cet après-midi, c'est une hausse de 1%. En attendant Wall Street, qui est attendu dans le vert, mais sur une note un peu plus prudente, puisque vous avez un Dow Jones qui gagne 0,3% avant bourse. Vous avez un S&P 500 qui gagne 0,7%. CAC 40 qui continue de surperformer les futurs américains et qui continue également de surperformer le DAX à Francfort. Là, ça y est, on rentre dans le dur, on rentre dans cette saison de publication d'entreprise et comme souvent, le jeudi, c'est la journée la plus chargée en termes de publication. Quand vous regardez le DAX, il gagne seulement 0,3% pour la simple et bonne raison que SAP, qui est la future plus grosse capitalisation, puisque Ligne 2 va sortir, perd plus de 3% aujourd'hui, puisque vous avez le groupe informatique qui va supprimer 3000 emplois, ça représente 2,5% de ses effectifs, alors que nous, dans le même temps, à Paris, on continue d'être porté par le secteur du luxe. Quand vous regardez LVMH qui va publier ce soir, on est à nouveau sur des plus hauts, 803 €, c'est une hausse de 1,4%. Quand vous regardez Hermès, on est au plus haut historique, on a un titre qui flirte avec les 1 700 €, nous sommes à 1 698 €, c'est une hausse de 2,4%. Kering, plus 2,5%, c'est la deuxième plus forte hausse de l'indice parisien aujourd'hui. À l'inverse, Pernod Ricard qui ferme la marche avec un titre qui perd 1,3%. Dans le sillage de Diageo, qui est le numéro 1 mondial des spiritueux et qui perd aujourd'hui plus de 4% à Londres avec des résultats qui ont été publiés ce matin, note un peu prudente pour 2023 et puis dans le même temps une croissance qui a ralenti un petit peu au quatrième trimestre, ça a du mal à passer pour Diageo qui perd donc du terrain du côté de Londres. Et puis à noter que les matières premières repartent à la hausse puisque désormais vous avez un baril de Brent qui flirte avec les $88, nous sommes à 87,70, c'est une hausse de 1,7%. Et le marché obligataire, après ces statistiques aux États-Unis, continue de se stabiliser. On a un 10 ans américain qui est toujours à la porte des 3,5%, 3,47 quand les taux en Europe se stabilisent également, 10 ans français à 2,63 ou encore un 10 ans allemand à 2,17 cet après-midi.
Et ce CAC décidément en pleine forme, impressionnant. Et on monte en Europe malgré le retour de quelques tensions obligataires. Les taux souverains remontent après les indicateurs américains du jour meilleurs qu'attendus. Eric est avec nous, Eric Blaine depuis Swiss Life Banque Privée. Bonjour Eric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Alors ce rallye haussier des marchés qui reprend déjà. La question n'est peut-être pas de savoir si le record absolu du CAC sera battu, mais quand, alors je vous la pose cette question, quand sera-t-il battu d'après vous, Eric?
Alors, on n'en est pas loin, faut bien reconnaître, parce que le niveau absolu du CAC, c'était le 5 janvier 2022, on était à 7384,85, et là on est à 7115, donc il y a 3,6% à prendre. Vous savez que ce soir, il y a le résultat des poids lourds du CAC, et notamment celui de LVMH, qui représente plus de 12,5% de l'indice. Donc, le signal de LVMH est positif, il y a des chances que le CAC, effectivement, se rapproche très, très sérieusement de son point haut. Surtout que si on prend le CAC dividende réinvesti, le point haut, c'est toujours le 5, et c'est 16,03 points. Or, aujourd'hui, déjà, on est à 15 798. Donc on a 200 points d'écart, c'est-à-dire moins de 1,25, moins de 1,3%, 1,3%, ce point haut. Donc les LVMH peuvent réussir à faire qu'on casse ce point haut. Moi, je pense quand même qu'on va avoir du mal à le casser, mais pourquoi pas.
Du côté des sociétés, on le dit, c'est vrai, on est au début de la phase de publication, ça commence à accélérer. Ce soir, LVMH, alors on vivra en direct, grâce à vos équipes d'ailleurs, Eric, après la clôture des marchés, cette publication, pour essayer d'anticiper la façon dont les marchés pourraient y réagir demain. Mais avant cela,
on vous accompagne jusqu'au bout.
C'est vrai, et vous prenez des risques. C'est vrai qu'on verra cette publication tomber en direct et votre expert nous accompagnera pour essayer de l'analyser à chaud. Ce sera super, super intéressant. ST Microelectronics, en attendant qu'on arbitre hein, sur le marché, alors vraiment à la hausse, le titre gagne 6,8%. On est dans l'univers des semi-conducteurs. Le titre STM mérite une telle hausse de plus de 6%?
Bah, ça me démange de vous en parler, STM. On est dans les puces. Donc, la guidance 2000, enfin, le discours, la vivacité de la société sur le premier trimestre est très bonne. Le discours sur l'année 2023 est aussi très positif. Juste, nous, on n'en a pas en portefeuille et on pense que. Alors finalement ça monte aujourd'hui hein, mais le secteur est en train de ralentir, ça on en entend parler, et si on désire regarder et analyser ce qui se passe donc au sein de la société, ça gratte un peu à deux niveaux. Un, Apple qui est le plus important quand même de STM parce qu'il représente 21% des ventes totales de l'entreprise. Là on a un chiffre d'affaires de l'iPhone qui est le plus important débouché de STMicro, qui a des problèmes de production sur l'iPhone 14. Les vagues de Covid-19 et les grèves qui existent aujourd'hui à la centre de fabrication chinois, qui représentent un problème significatif. Et puis, on a appris ça aujourd'hui dans le call qu'a fait donc la société. Vous savez, ils sont très proches de STM de Apple sur l'identification du visage. Et ça, sur les 20% de STM, ça représente 10% du chiffre d'affaires total. Et là, c'est pas très clair ce qu'ils nous racontent, mais enfin on voit bien que Apple veut dessiner cette identification de visage différemment, ce qui va peser visiblement sur la visibilité de STM. Donc nous c'est pas ce qu'on préfère dans ce secteur-là, on préfère ASML. Alors oui, STM Micro, on le connaît bien en France parce que c'est coté à Paris sur le CAC, c'est 35 milliards de capitalisation boursière. ASML, c'est 222 milliards de capitalisation boursière. Donc c'est la deuxième grosse valeur de la zone euro après LVMH. Et ASML, c'est un fabricant d'équipements de puces. Elle est engagée dans un système d'équipement d'entreprise de semi-conducteurs pour produire en fait les semi-conducteurs. Et donc, ils ont un système technologique extrêmement sophistiqué qui est basé sur la lithographie et la lumière ultraviolette extrême. Et ça produit en fait des puces super petites, extrêmement petites, hein, 300 mm. Hein. Avec ça, ils ont une situation de monopole mondial. Et là, ils font aussi aujourd'hui public, ils font état d'un carnet de commandes record. Mm-hmm. Ils visent une croissance de 25% de leurs revenus. Et donc, franchement, nous, on est plutôt exposé à STM que STM. Voilà.
Même si STM gagne 6,7% aujourd'hui, après la publication, les perspectives plus fortes hausses du CAC. Eric, merci. Eric Blaine, régulièrement à nos côtés. À très bientôt. Swiss Life Banque Privée à nos côtés. Et tout à l'heure, après la clôture, donc, pour aller un premier aperçu, une première analyse de la publication attendue après clôture de LVMH. Tout à l'heure, ce sera sur BFM Business après 17h35. On vous rejoint, Étienne Braque, depuis la Tour Euronext. Il y a une valeur qui fait mieux aujourd'hui, encore mieux qu'STM, c'est Sartorius Tedim.
Sartorius Tedim Biotech, c'est la plus forte hausse du SBF 120 aujourd'hui, avec un gain de quasiment 7%. C'est l'une des plus grosses valeurs du SBF 120. Ça vaut quasiment 30 milliards en bourse, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus gros que Orange, c'est plus gros également que Thales, ou c'est plus gros également que la Société Générale, hein. Donc, comme quoi, parfois, hors CAC 40, on a des grosses sociétés. C'était l'une des stars de la cote pendant la pandémie, hein, pour la simple et bonne raison qu'ils équipent les laboratoires, ils équipent l'industrie pharmaceutique, hein, avec tout un tas d'équipements et de machines. Et ils ont publié leurs résultats ce matin. Alors après la vague de Covid, on a une croissance qui nous dit va se normaliser. Mais quand vous regardez la croissance en 2022, c'est quand même plus 15% pour le chiffre d'affaires. Et puis surtout, ils montrent qu'ils en ont encore sous le pied, même si la crise de la Covid est en passe d'être passée en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisqu'ils ont relevé leurs objectifs pour 2025. Finalement, ça ne sera pas 4 milliards de chiffre d'affaires, ça sera 4,4 milliards, donc plus 10%. Et ça plaît au marché, sachant qu'on a un titre qui avait pas mal reflué depuis la fin de la pandémie, sachant que vous avez des marges qui sont toujours au rendez-vous, hein, marge d'exploitation au-delà des 35%. C'est aussi l'un des titres les plus chers de la cote, hein, puisque ça se paye environ 35 fois les bénéfices. Mais en tout cas, on a des rachats sérieux sur ce titre, plus 7,9% à l'instant pour Sartorius Stadium Biotech à 330 euros.
Étienne Braque, vous allez nous accompagner, bien sûr, Étienne, tout au long de l'après-midi depuis la tour Euronext. À tout à l'heure pour le suivi de cette séance très intéressante. Le CAC 40 a vraiment flirté avec ses plus hauts de l'année. Là, il y a quelques minutes, on entamait à peine BFM Bourse à quelques pouillets, moins d'un point près, on était sur le plus haut annuel. Ah, on y a presque touché. Bon, on est actuellement quand même encore en belle hausse, c'est vrai, de plus de 0,8%, 7106 points sur l'indice CAC 40. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que les indices montent malgré une remontée aussi des taux obligataires. Aujourd'hui, on voit aussi les futurs américains à un quart d'heure de l'ouverture de Wall Street. Les futurs américains nous promettent une ouverture à la hausse, plus 0,6% en ce moment, le S&P 500 futur.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
Et on va parler de tout cela aussi avec François Rimeux. Bonjour François.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver, stratégie senior à la française Asset Management. Les indicateurs du jour aux États-Unis sont assez dingues quand même, tous meilleurs qu'attendus, François, mais largement. Le PIB du quatrième trimestre, on l'attendait à 2,6, il atteint, la croissance américaine a atteint 2,9%. On attendait une remontée des inscriptions au chômage, pas du tout, elles continuent de baisser, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage repassent sous la barre des 190 000 à 186 000, et sur les commandes de biens durables, on a un chiffre de commandes deux fois supérieur aux attentes. Bon, est-ce qu'on se dit, en regardant tous ces indicateurs, qu'il est absolument évident désormais que l'économie américaine va éviter la récession, d'après vous ?
C'est probable, oui. C'est probable et ça suit une vague de chiffres qui ont été meilleurs outre-Atlantique et en Chine. On a vu ça déjà sur les ventes au détail, sur la production industrielle chinoise sur le mois de décembre. On avait vu ça aussi en Europe beaucoup, sur tous les indicateurs avancés, que ce soit du type Zoom, IFO, Centix, etc. Et les États-Unis étaient un peu en retrait par rapport à ça. Et là, on a cette vague d'optimisme, entre guillemets, qui touche aussi les États-Unis, en lien avec deux faits majeurs, mais qui ont changé quand même pas mal la donne au cours des deux derniers mois, c'est la confirmation de la réouverture de l'économie chinoise. On n'a pas encore des faits réels sur l'économie, mais ça donne de l'optimisme. Et puis, la baisse des prix de l'énergie, et spécialement du gaz en Europe, qui fait qu'on augmente globalement à la marge les révisions de croissance et ça risque de continuer un peu dans les semaines qui viennent.
Et ce marché de l'emploi qui ne veut décidément pas vraiment refroidir, on le disait, nouvelle baisse des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. On voit aussi que le marché de l'emploi reste très costaud ici en Europe. Est-ce que vous estimez qu'on s'oriente vers un nouvel âge d'or ou en tout cas un nouvel âge sur ce marché de l'emploi avec les évolutions démographiques notamment qui peuvent peut-être en partie participer à expliquer cette belle résilience du marché de l'emploi?
Il y a évidemment plein de facteurs explicatifs à la très très forte résilience des marchés de l'emploi dans toutes les économies du monde. Hein. Les problématiques de départ à la retraite, les problématiques d'immigration qui ont été stoppées aux États-Unis, et puis la pyramide des âges qui évidemment joue beaucoup sur la démographie. Donc oui, il y a des facteurs de long terme qui vont pousser les marchés de l'emploi vers plus de plein emploi par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, spécialement en Europe. Ça, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut espérer, c'est que le rééquilibrage en cours sur les salaires, sur les catégories les moins favorisées dans le cycle, qui sont les moins éduquées, etc., et qui ont beaucoup été favorisés par les hausses de salaire, il faut espérer que ça continue pour que ça soutienne le pouvoir d'achat, que ça réduise les inégalités. Et ça, on est vraiment au tout début d'un cycle qui pourrait, espérons-le, durer de très nombreuses années, mais c'est très tôt pour le dire. Là, aujourd'hui, sur les claims américaines qui sont en dessous des attentes, c'est principalement du fait du secteur de la construction qui ne veut pas perdre d'emploi. Alors, plein de pseudo-raisons qu'on peut lier à ça. Ça peut être en lien avec le plan d'infrastructure de Biden en 2021. Mais en tout cas, c'est pour le moment le point manquant pour que le tightening des conditions financières de la Fed fasse effet. Ça n'a pas d'impact encore sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est à prendre en compte.
La semaine prochaine, la Fed va délivrer sa décision de politique monétaire. On voit des indicateurs aujourd'hui tous bien meilleurs qu'attendus, montrant donc toujours cette résilience de l'économie américaine. Est-ce que vous pensez que la Fed va, comme le marché s'y attend désormais, ralentir son rythme de hausse de taux et passer de 50 à 25 points de base, comme l'a fait hier la Banque du Canada par exemple, ou est-ce que cette résilience de l'économie lui offre au contraire des marges de manœuvre pour rester sur ce rythme élevé de 50 points de hausse de taux ?
Non, il est extrêmement probable que la Fed ne monte les taux que de 25 points de base lors du prochain meeting. Et quand on regarde ce qu'a fait la Banque centrale du Canada, c'est assez intéressant. Ils stipulent et ils notent dans leur déclaration que l'inflation dans leur modèle devrait rejoindre la cible à mi-2023 et que sur les trois derniers mois glissants, ils sont déjà en ligne avec leur cible. Et c'est un commentaire qu'on pourrait faire un copier-coller pour la Fed et ça s'appliquerait exactement de la même façon. Et on a des cycles monétaires qui sont très très corrélés entre le Canada et les États-Unis, donc il est très probable qu'ils fassent que 25. La question, c'est est-ce qu'ils vont faire que 25 centimes et ensuite graduellement signaler qu'ils atteignent la fin de leur cycle monétaire de hausse de taux, comme l'a fait la Banque centrale du Canada. Du côté de l'inflation, il y aurait des bonnes raisons de le faire, sans doute, pour se donner du temps pour regarder quelles vont être les conséquences de ce très fort tightening des conditions financières au cours des mois et des trimestres qui viennent. Mais effectivement, il y a du côté l'inflation qui va être, qui est une donnée très très positive pour la Fed sur les quelques derniers mois. Et d'autre côté, la croissance qui reste quand même encore assez élevée. Donc, nous, on pense quand même que graduellement, la Fed va arrêter et que c'est sans peut-être la dernière hausse de taux lors du prochain meeting.
Ah, peut-être la dernière. C'est-à-dire que vous pensez qu'en mars,
C'est possible.
Ah oui. Bon, on va suivre tout ça de très très près. Merci François de nous avoir accompagné. François Rimeux, stratégiste senior pour la française Asset Management. Alors on a une petite remontée des taux obligataires aujourd'hui après les bons indicateurs américains. Elle n'est pas énorme cette remontée, mais enfin quand même, on est à 3,47. On monte un petit peu sur le 10 ans américain, on est à 2,17 sur le 10 ans allemand, 2,62 sur le 10 ans français. Cette légère, très légère remontée des taux n'empêche pas le CAC 40 de venir flirter à nouveau aujourd'hui avec ses plus hauts annuels, les plus annuels qu'on avait touchés il y a à peine quelques jours. Hey, on est à 7115,50. Voilà, on est sur un nouveau plus annuel, 7115,80. Nouveau plus annuel à l'instant sur le CAC 40. Vous le vivez avec nous en direct. Un peu plus d'1% de hausse pour notre indice CAC 40, donc qui est au sommet de ce rallye entamé fin septembre, qui avait marqué une pause en décembre et qui est reparti de plus belle depuis le début du mois de janvier. On est au sommet de ce rallye là. On verra s'il nous porte vers de nouveaux autres sommets. Mais là, on est sur un nouveau plus haut annuel. Donc depuis le début de l'année, on n'était jamais monté à ce niveau-là, 7116 points. Sur notre indice CAC 40, on n'est plus qu'à peu près 3,5% de son record absolu.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
Notre joker immobilier chaque jour aux alentours de 15h20. Pascal Bonnefille nous accompagne, le directeur de la publication d'Imo Week. Bonjour Pascal.
Bonjour Guillaume.
Paris restera toujours Paris. Pascal, c'est la ville du monde la plus recherchée par les plus riches du monde. Devant Miami et New York, c'est ce qui ressort d'un classement réalisé par Barnes, c'est ça?
Et oui, le Barnes City Index 2023, donc c'est tout frais, ça vient d'être publié, nous met désormais, mais Paris, donc, au premier rang des villes les plus recherchées par les ultra-riches. Alors, c'est quoi les ultra-riches selon Barnes? C'est ceux qui ont plus de 30 millions de dollars d'actifs avec eux. Et donc, comme vous l'avez dit, Paris est maintenant en tête devant Miami, New York, Dubaï, etc., etc. Avec des prix, parfois, qui atteignent à Paris les 40 000 euros du mètre carré. C'est un peu exceptionnel, bien sûr. C'est pas le prix moyen à Paris, mais pour de l'ultra formidable bien, ça arrive.
Bon, Paris garde donc son aura. Paris sera toujours Paris pour la clientèle la plus haut de gamme qui donc préfère Paris à Miami ou encore Dubaï qui sont aussi dans ce top 5 avec New York également réalisé par Barnes, ce top 5 mondial. Bah, tant mieux, on en est ravis. Et puis merci de Brexit aussi qui participe à rendre de l'attrait
parce que ouais. Londres est au 7e rang maintenant, alors qu'il a été longtemps en tête de peloton.
Bon, pour les investisseurs un peu plus lambda, qui n'ont pas forcément 30 millions d'euros d'actifs dans la poche, est-ce que Paris vaut encore le coup? Est-ce que Paris vaut le coup d'y investir alors que les prix sont encore proches de leur plus haut historique, d'après vous, Pascal?
Alors, bon, moi, je ne lis pas dans le marc de café, mais si vous voulez, si on regarde, là, on va se placer sur le plan de l'investisseur, bien entendu. Si on regarde très longtemps en arrière, alors il y a 60 ans, vous n'étiez pas né, Guillaume, moi, je naissais, les Parisiens étaient quand même très inférieurs. Alors, c'est des comparaisons de prix, vous savez, qu'il faut toujours faire attention parce qu'il y a eu l'inflation entre eux. Mais si on essaye de faire une comparaison à peu près, il y a 60 ans, les prix étaient aux alentours de 900 euros du mètre carré. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 000. Donc, vous voyez qu'on a quand même fait un sacré bond. Et on peut dire qu'en moyenne, évidemment, c'est une moyenne, Paris a pris plus de 4% chaque année en termes de prix par an. Donc, évidemment, les dernières années, ça a été un choupillou moins bien encore que. Cette année 2022-2023, on nous annonce, les notaires nous ont annoncé une légère baisse de 0,8%. Donc, si vous voulez faire de l'investissement à très court terme, je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure année pour investir à Paris. c'est probablement pas le cas. Mais si vous achetez un appartement pour vous dire peut-être que je le revendrai dans 10 ou 15 ans, je crois que, comme dans les années précédentes, il est fort possible que ce soit quand même un très bon placement. Surtout que, et là j'allais dire malheureusement, c'est vraiment mon grand, grand regret, on ne construit pas assez à Paris. Et comme on ne construit pas assez à Paris, eh bien on donne à tous ceux qui ont déjà un appartement, un logement, un effet de rente, puisque au fond, comme il y en a très peu, et comme il y a beaucoup de demandes chez les très riches et aussi chez les moins riches, eh bien, forcément, ça crée quand même un système qui est un système de hausse et d'inflation.
Oui, d'autant que la demande, elle n'est pas que française, elle est évidemment européenne et très largement internationale. On vient de l'illustrer à travers ce classement de Barnes des villes les plus attractives du monde pour, alors, les très très riches, mais Paris fait rêver le monde entier, pas que les très très riches, bien sûr. Enfin, quand même. Paris, où les problèmes de circulation, malgré tout, Pascal, se multiplient, la fiscalité immobilière progresse, il y a des risques accrus, peut-être même de préemption des biens, puisque la ville de Paris veut qu'à terme 40% des logements à Paris soient des HLM ou des biens intermédiaires.
Oui, je sais bien. Il y a beaucoup, il y a plein de, et puis tout habitant de Paris peut vous faire une très très longue liste de toutes les difficultés qu'il y a à vivre dans Paris, et tous les Parisiens qui nous écoutent le savent bien. En même temps, il reste quand même un attrait très fort et que on voit bien pour les 20 arrondissements de Paris, hein, puisqu'aujourd'hui quand même c'est un sujet qui touche aussi les quartiers qu'on disait populaires. Eh bien, tous les quartiers de Paris vivent quand même des moments de tension et avec des fortes demandes. Alors, comme vous le disiez, il y a plein de facteurs. Il y a aussi la baisse de la démographie, hein. Il y a moins d'habitants à Paris. Mais le fait des 40% de logements sociaux, par exemple, dont vous nous parliez, ça diminue encore le nombre de logements locatifs privés qui existent donc. Donc aussi l'attractivité. Donc vous voyez, quand vous êtes propriétaire d'un logement, que ce soit pour investir, pour le louer ou pour l'occuper, a priori, vous n'aurez pas 200 000 personnes autour de vous qui pourraient vous faire de la concurrence. Donc, moi, je crois que dans les années qui viennent, et encore une fois, je le dis malheureusement, parce que je trouve qu'il faudrait beaucoup plus construire à Paris, eh bien, je crois que c'est le fait de non construire, eh bien, ça crée, pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir acheter à Paris, eh bien, ça leur crée une possibilité quand même de plus-value dans les années qui viennent. Encore une fois, pas dans les 6 mois, hein, ça, je suis bien d'accord, mais dans les 10 ans, ça serait quand même très étonnant qu'il n'y ait pas.
Où est-ce qu'il faut acheter à Paris?
Ça, c'est une vraie question. Mais ça, c'est pas une question immobilière, parce que ça dépend de vos moyens, ça dépend aussi de vos goûts. Il y a des gens qui ne jurent que par l'Est, d'autres par l'Ouest, d'autres par le Sud, etc. Donc ça dépend vraiment de vos goûts. Évidemment, il y a aussi parfois la question des sous, et que si vous avez beaucoup d'argent, bah, vous allez aller plutôt dans le 6e, le 7e, l'ultra-centre de Paris, et une partie du 16e Nord. Et puis, si vous avez un peu moins de sous, bah, vous allez aller plutôt dans les anciens quartiers populaires de Paris, qu'il reste quand même en partie, qui sont les arrondissements 18, 19, 20e. Hein. Mmh. Mais aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y ait du pas cher à Paris. Et on le voit bien avec tous nos auditeurs et tous ceux qui nous regardent aussi en région, les prix pour quelqu'un qui vient même d'une métropole régionale, les prix à Paris paraissent dingues.
C'est vrai, ouais. Alors le bon plan, c'est peut-être d'être dans un arrondissement périphérique, mais la partie la plus proche du centre de cet arrondissement, comme ça vous bénéficiez des avantages du centre de Paris, mais comme vous n'êtes pas dans un arrondissement du centre, vous n'en avez pas le prix pour autant, donc c'est moins cher, ça peut être un plan.
Oui
ça.
Et non, parce que dès que vous êtes, forcément, par exemple le 15e, vous savez qui est un très gros, qui est le gros arrondissement de Paris, la partie la plus chic, entre guillemets, du 15e, qui est celle qui est proche du 7e arrondissement, là où sont les prix les plus chers, bah, curieusement, les prix dans le haut du 15e sont quand même beaucoup plus chers que ceux dans le sud du 15e, où sont les bureaux d'ailleurs de BFM Business.
Exact. Le 15e, c'est autre chose. C'est du. Enfin, c'est un arrondissement prisé, non, mais on n'est pas dans le.
C'est un arrondissement privé de beaucoup de choses. Mais encore une fois, je crois que là, en dehors des problèmes de prix, et évidemment, puisque nous parlons là, investissement, ça compte énormément, et il est sûr que le rendement locatif sera un tout petit peu meilleur dans des quartiers où les prix sont moins chers, enfin un tout petit peu moins chers, encore une fois, sachant qu'à Paris, il y a un encadrement très fort des loyers. Comme
effectivement, et ça compte aussi ça pour les investisseurs.
Ça compte aussi pour les investisseurs. Il faut toujours y penser à ce genre de choses. Hein.
Pascal Bonnefille, directeur de la publication d'ImmoWeek, nous a accompagné aujourd'hui pour réagir à ce classement Barnes qui hisse donc Paris en tête des villes les plus désirables du monde pour les ultra-riches, devant Miami, New York ou encore Dubaï. Merci beaucoup Pascal. Tiens, New York, qui est derrière Paris. On va quand même y aller. On va y poser un pied, pas plus. On va rejoindre sur place Sabrina Quagliozzi. Elle nous y attend à New York pour vivre les tout premiers échanges du jour à Wall Street. L'ouverture de Wall Street, comme chaque jour en direct sur BFM Business, ce sera juste après la pause. On va la retrouver, Sabrina, dans 1 minute 30. Sabrina, on vous aperçoit pour ceux qui nous suivent à la télévision ou sur l'application BFM Business. On vous rejoint dans un instant. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
À vos côtés jusqu'à 18h, le CAC 40 est au plus haut de l'année. Bon, au plus haut depuis le 1er janvier. Hein. On a touché tout à l'heure les 7116 points, on est à 7114 en hausse de plus d'1%. Et Wall Street est en train d'ouvrir également. La cloche retentit à Wall Street, c'est l'ouverture. On rejoint sur place Sabrina Quagliozzi. Bonjour Sabrina, on est ravis de vous retrouver. Comment se passe chez vous ce tout début de séance ?
Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Les trois indices ouvrent la séance sur une belle progression après avoir déjà affiché un joli retour hier, notamment sur l'indice Dow Jones qui perdait 400 points sur les plus bas niveaux de la séance pour terminer sur une petite progression avec un S&P 500 et un Nasdaq qui ont certes hier terminé en baisse, mais bien loin des plus bas niveaux de la séance. Alors aujourd'hui, on ouvre sur une hausse bien marquée. Plus 0,4% pour l'indice Dow Jones. Le S&P 500 affiche un gain de 0,8%, bien au-dessus des 4000 points. Le Nasdaq, plus 1,5%, 11 485 points. Séance très, très chargée du côté de l'actualité entreprise. On y reviendra dans quelques instants avec, bien sûr, encore beaucoup de résultats et puis beaucoup de statistiques également. On a eu les chiffres de la croissance pour le quatrième trimestre. Le PIB qui est ressorti au-dessus des attentes, plus 2,9% de croissance sur le trimestre écoulé. On attendait un chiffre aux alentours de 2,8%. Bon, ça s'essouffle par rapport au troisième trimestre où la croissance était de 3,2%. Dans le détail, les dépenses de consommation ont grimpé de 2,1%, un petit peu moins que les 2,3% du trimestre précédent. Et puis, des indications encourageantes en ce qui concerne les composantes inflation, net essoufflement de ce côté-là. Alors, comme chaque jeudi, on a eu également les inscriptions hebdomadaires au chômage. Décidément, ce marché de l'emploi aux États-Unis résiste puisqu'on a une baisse de 6 000. La semaine passée, Guillaume, 186 000, c'est un plus bas depuis le mois d'avril. Et puis, également, au menu de ce jeudi, les commandes de biens durables, un gain de 5,6% sur le mois de décembre grâce au transport, essentiellement, puisque si on regarde hors transport, eh bien, on est sur une baisse de 0,1% sur le mois de décembre. Une tendance donc positive. Le Dow Jones prend 0,4%. Le Nasdaq, surtout en tête, plus 1,4%. Avec du côté de l'obligataire une tension, 3,48 et un pétrole qui est en légère progression, plus 2,3%. On est à 81,99$.
Et de nombreuses publications, bien sûr, à surveiller aujourd'hui les titres Tesla et IBM, Sabrina.
Oui, alors c'était hier soir après la clôture. Tesla, très attendu avec des chiffres qui ont dépassé les attentes. Le chiffre d'affaires est ressorti à niveau record, des résultats solides. Bon, alors si on regarde du côté des marges, on est un plus bas en 5 trimestres de ce côté-là, dans le sillage bien sûr de la baisse des prix de certains des véhicules et puis aussi la hausse des coûts. On notera en revanche que les prévisions sont, elles, optimistes également, beaucoup de confiance de ce côté-là, puisque Elon Musk estime qu'il est possible de produire 2 millions de véhicules cette année. Bref, des annonces qui sont bien accueillies dans l'ensemble, hein, puisque le titre Tesla, très bien accueilli même, puisque le titre Tesla prend pratiquement 10% ce matin à l'ouverture, $158.40. IBM, de son côté, moins 4,45%. Pourtant, le groupe a publié des chiffres supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé. Sur l'ensemble de son exercice, les ventes ont grimpé de 6%, plus forte progression des ventes pour IBM en plus de 10 ans. Le groupe qui, parallèlement, annonce des licenciements, 3900 employés concernés. Le titre est en baisse ce matin. IBM, donc, recule de 3,7%. Très rapidement, les autres publications, dans le secteur aérien, vous avez American Airlines qui a fait mieux que prévu grâce à une hausse de la demande en fin d'année, hausse du prix de ses billets également. Le titre American Airlines prend 1,4%. Et puis Comcast est en hausse après la publication de chiffres supérieurs aux attentes. Une tendance donc sur ces marchés américains, un début de séance sur une note positive après la publication donc des chiffres du PIB. Le Dow Jones, Guillaume, prend 0,4%, le Nasdaq en hausse d'1,5% et le S&P 500 est à 4050 points. C'est une progression de 0,9%. À tout à l'heure, Guillaume.
À tout à l'heure, Sabrina, vous nous accompagnez depuis New York pour suivre l'ensemble de cette séance. Et vous nous le disiez, dans le PIB, la composante inflation tente à rassurer aussi un tout petit peu les marchés. Le CAC 40 est en hausse d'1%, 7110 points en ce moment.
BFM Business. BFM Bourse, mouvement de marché.
Alors avec des publications qui sont aussi arbitrées ici sur le marché parisien, STMicroelectronics gagne plus de 6% après la publication de ses résultats du quatrième trimestre, plus de 6% de hausse. Mais nos experts du jour, bon, privilégient plutôt ASML, les experts de Swiss Life Banque Privée qui nous accompagnaient tout à l'heure. Tiens, Frédéric Rosier aussi est avec nous pour Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver. On peut rentrer directement dans ces publications d'entreprise, puis on parlera de l'ensemble du marché dans un instant, bien sûr, et ce rallye qui n'en finit pas. Le CAC 40, il y a quelques minutes, a touché un nouveau plus haut depuis le 1er janvier à 7116 points. D'abord, donc, les publications qui participent à nourrir la hausse. STMicroelectronics, c'est la plus forte hausse aujourd'hui du marché parisien, du CAC 40, des résultats supérieurs aux attentes. STM prévoit une hausse de plus de 18% de ses revenus, une marge brute d'environ 48%, la marge brute au premier trimestre. Est-ce que ça mérite une telle hausse de plus de 6%?
Oui, tout à fait. Le marché était extrêmement prudent depuis quelques temps sur les semi-conducteurs. Alors, même si ça s'était redressé un petit peu, c'est vrai qu'on avait des inquiétudes, notamment du ralentissement économique. C'est typiquement le genre de valeur sur lequel il y a un impact direct. STM est un fabricant de semi-conducteurs sur lequel effectivement il pouvait avoir des pressions sur la partie électronique, on va dire, grand public. On sait que sur l'automobile, c'était extrêmement pesant. Donc voilà, toute l'industrie du semi-conducteur était vraiment... Alors, les valos étaient peut-être excessives, quelque part, et on a vu des vents vendeurs sur le dernier trimestre de l'année dernière. Donc là, c'est un retour finalement à une tendance qu'on connaît très très bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle un méga-trend. On le sait, des semi-conducteurs, on a en plus dans nos smartphones, des véhicules électriques qui ont besoin de plus en plus de semi-conducteurs pour notamment l'efficience énergétique, la transmission d'énergie aux véhicules. Et donc, STM nous dit quoi ? Nous dit, bah aujourd'hui, on ne voit pas une forme de ralentissement, on a une tendance qui est très forte. Et en plus, c'est toujours problématique, vous savez, lorsque vous avez une hausse comme ça du carnet de commandes et du chiffre d'affaires, c'est de maintenir des niveaux de marge sur des niveaux relativement élevés. Et là, ils font même au-delà. Vous avez signalé, marge brute à 47,5. On est 25 points de base au-dessus des attentes. Même les bénéfices par action sont au-dessus des attentes. Donc, on voit non seulement que la tendance globale est soutenue de croissance, mais en plus, on a une efficience opérationnelle qui continue à s'améliorer dans cette entreprise. Donc, effectivement, on le voit, pas seulement sur STM, on le voit par exemple en Allemagne avec Infineon, ASML qu'on détenait aussi dans notre portefeuille ESG performe extrêmement bien. On le voit aux États-Unis avec des titres comme Nvidia, AMD également retrouver un petit peu de couleur. Donc, c'est tout le repricing finalement d'un secteur qui avait été peut-être injustement attaqué l'année dernière.
Est-ce que vous pensez que les publications en Europe pourraient s'avérer meilleures que les publications américaines ? Parce qu'on est plus avancé aux États-Unis, mais elles sont un peu médiocres, les publications pour l'instant aux États-Unis, pas spécialement alarmantes, mais un peu médiocres, quoi. Ouais. Et pour l'instant en Europe, on est moins avancé que les Américains sur les publications, mais on sent ces publications pour l'instant moins médiocres qu'aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que ces publications, les perspectives pourraient davantage surprendre agréablement ici en Europe qu'aux États-Unis et donc continuer de nourrir la surperformance des marchés européens, Frédéric?
Alors, c'est du relatif parce que vous le savez, les analystes avaient fait un petit peu un travail en amont parce que on avait une inquiétude en Europe qui était légitime au regard de la situation énergétique, de la situation même globale, d'un ralentissement européen. Et donc, il y avait un travail qui a été plutôt de raboter quelque part les estimations. Donc, l'effet bonne surprise, quelque part, il est relativement important en Europe, d'ailleurs, de manière globale, même sur l'économie. Vous savez, certains confrères utilisent des indices qui permettent ce qu'on appelle de surprise, de bonnes surprises. Et en Europe, force est de constater que ces bonnes surprises sont clairement orientées à la hausse. On est parti d'une idée qu'on allait rentrer en récession dans de nombreux pays européens. Ça semble s'éloigner aujourd'hui. Et donc, à l'instar de ces nouvelles macroéconomiques, les entreprises aussi aujourd'hui délivrent des messages qui sont extrêmement encourageants. Donc, il y a une forme de rattrapage qui s'opère tout naturellement. Et effectivement, alors pour l'instant, il faut minorer. Hein, on a eu finalement assez peu de publications. On va rentrer vraiment dans le dur plutôt début février. On aura le LVMH entre-temps. Mais force est de constater que pour l'instant, effectivement, les indications des entreprises européennes montrent une forme de résilience et d'un discours qui est quand même plutôt optimiste sur 2023.
Oui, à confirmer, bien évidemment. Ce soir, LVMH, c'est vrai, vous avez prononcé le mot. Alors allons-y, LVMH, qui va publier après la clôture. Qu'est-ce que vous attendez de la part d'LVMH, qui, on rappelle, pèse très très lourd dans le CAC 40?
Oui, honnêtement, ça devrait être bon. Il y a un facteur toujours positif sur le séquentiel, c'est l'effet change. LVMH, c'est quasiment 8% de chiffre d'affaires supplémentaire sur l'effet forex, hein, la parité euro-dollar. Donc, bien sûr, avec le rebond de l'euro contre dollar, cette partie-là va être un peu plus partie importante de cette progression, mais malgré tout, en effet de base sur le dernier trimestre, ça a été toujours un contributeur positif. Donc on va avoir effectivement des chiffres qui vont être intéressants, à mon avis assez forts d'ailleurs. Hein. Voilà, maintenant, vous savez, la performance de LVMH, le parcours quasiment historique qu'elle a connu hein, par rapport à ses points bas, en anticipation d'un effet de réouverture du marché chinois. La question, c'est est-ce que le marché n'a pas déjà anticipé une bonne partie de ces bonnes nouvelles? On l'a vu aujourd'hui, donc peut-être que vous n'êtes pas aperçu d'un mouvement de baisse sur Pernod Ricard, par exemple, aujourd'hui. C'est dû à une faiblesse, notamment de son concurrent Diageo, l'anglais, sur des ventes un petit peu décevantes et sur, notamment en Amérique du Nord, et des signaux, notamment sur le Nouvel An chinois, qui étaient peut-être un petit peu moins favorables. Donc, on voit, voilà, sur la partie vin et spiritueux, voilà, il y a une petite inconnue qui peut intervenir éventuellement dans les résultats de LVMH. Malgré tout, on aura des résultats records cette année. Hein. Ça, c'est clair. On n'a pas de doute là-dessus. Je répète. Aujourd'hui, en termes de valorisation, que ça soit en absolu ou en relatif, on revient quand même sur des sommets. Est-ce que le marché ne va pas être hyper exigeant par rapport à la qualité des résultats? Donc, voilà, je botte en touche là-dessus sur la réaction du marché. Je pense qu'il va falloir vraiment peut-être effectivement nous surprendre très fortement et un message extrêmement positif pour que le marché ne soit pas tenté de faire une prise de bénéfice.
Et on tentera une première analyse de la publication d'LVMH en direct. A priori, la publication devrait intervenir entre 17h35 et 18h, auquel cas, donc on tentera avec nos experts justement vous qui nous suivez sur BFM Business, une toute première analyse et une anticipation de la façon dont les marchés pourraient demain réagir à cette publication très très attendue ce soir. On va parler aussi dans un instant, Frédéric, des publications américaines, juste avant les indicateurs du jour. Ils sont dingues, ces indicateurs. L'économie américaine, non mais elle tient, elle fait plus que tenir. On voit les commandes de biens durables progresser deux fois plus qu'attendu, plus 5,6% le mois dernier. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, dont on pensait qu'elles finiraient par repartir à la hausse quand même, pas du tout, elles baissent encore sur des plus bas d'avril, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, à peine 186 000. Et puis le PIB américain, lui aussi, ressort supérieur aux attentes pour le quatrième trimestre 2022. Il n'y aura pas de récession, Frédéric, ou il y a encore un risque de récession?
Ça s'éloigne. En tout cas, ce spectre-là s'éloigne. Donc, de toute façon, si éventuellement contraction de l'économie américaine, ça serait plutôt en deuxième partie d'année. Il y a peut-être des petits indicateurs sur lesquels on était extrêmement vigilants. C'est notamment la partie construction, avec notamment des permis de construire qui étaient orientés à la baisse depuis quelques mois déjà. Donc, on sait que lorsque vous avez des permis de construire qui baissent, la translation vers le marché de l'emploi met un certain temps. Il y a une forme de latence par rapport à ça, surtout sur un marché de l'emploi dans la construction qui est structurellement très très tendu. Donc, avant de licencier, il faut vraiment qu'il y ait un effondrement des permis de construire, ce qui a été le cas pour le coup. Donc, on aura un impact sur l'emploi plutôt courant été de cette année. Donc, s'il y avait un vrai risque, je dirais que ça serait plutôt sur la deuxième partie de l'année. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a tous les voyants verts. Hein, vous l'avez signalé, l'activité est bonne. Les chiffres du PIB étaient assez surprenants. L'emploi tient. En Europe, on a des effets bonnes surprises sur l'économie. Donc, c'est très difficile d'être pessimiste dans cet environnement. Et en plus, vous avez quelques données. Par exemple, le prix du gaz qui continue à s'effondrer jour après jour. Donc, cette tension qu'on avait, ces craintes qu'on avait sur l'activité économique européenne par le prix de l'énergie, force est de constater que là aussi, ça va plutôt dans le bon sens. Donc, tout est en train de se détendre sur les points de crispation. L'inquiétude qu'on pourrait avoir, effectivement, c'est... est-ce que les niveaux de marge pourraient continuer à tenir sur ces niveaux? Mais à l'instar de ce qu'a publié aujourd'hui STM, nos entreprises sont bien armées par rapport à ça et capables de maintenir des niveaux de marge relativement élevés. Donc, la question, c'est est-ce que oui ou non c'est tenable sur cette cadence sur le marché? Est-ce que le marché est cher? Au moment où on se parle, on ne peut pas dire qu'il est cher. Est-ce que c'est tenable sur cette vélocité de début d'année? Ça va toujours trop vite. Il y a un point quand même que je voulais signaler, c'est que on a des flux, et ça c'est très important, des flux qui se retournent. On a eu 4 mois de flux négatifs de sortie. Le mois de janvier est en flux positif sur l'Europe. Donc on a de nouveau des investisseurs, notamment anglo-saxons, américains, qui reviennent investir dans la zone euro en réallocation, puisque l'allocation européenne était arrivée sur des niveaux extrêmement bas, voire historiquement bas. Et de nouveau, ces flux sont acheteurs. À l'inverse, ils sont plutôt en train de baisser et voire négatifs sur les États-Unis. Donc, on voit très clairement aujourd'hui cette volonté, notamment des grands asset managers, de se réallouer dans la zone euro. Ça explique pourquoi vous avez ce mouvement. Et en plus, vous le savez très bien, vous avez certainement eu beaucoup d'échos comme ça avec vos intervenants. Tout le monde était extrêmement prudent en début d'année. Donc, tout le monde est un petit peu à la remorque du marché. Et à la moindre baisse, on a le sentiment que tout le monde recherche finalement à se repondérer pour éviter effectivement un trop gros écart par rapport aux indices.
Et pendant ce temps, les banquiers centraux restent extrêmement fermes. Les différents membres de banques centrales continuent de dire « attention, on va continuer de resserrer nos politiques monétaires ». On voit en plus que l'économie américaine a du mal à véritablement ralentir. Elle ralentit bien sûr, mais pas autant peut-être que ne l'espère la Fed. Alors on voit les taux obligataires du coup qui remontent un petit peu aujourd'hui, pas beaucoup, mais quand même 3,48 par exemple pour le 10 ans américain. La Fed sortira du bois et annoncera sa décision dans une semaine. Hier, la Banque du Canada a choisi, Frédéric, de ne relever que de 25 points de base ces taux. Est-ce que c'est annonciateur et prédictif de ce que choisira de faire la Fed, d'après vous, la semaine prochaine?
Possible. Vous avez aussi noté que le Japon a gardé sa politique taux zéro. Donc, il y a une forme aussi de volonté d'amortir un peu un choc économique. Oui, ça peut être le cas. De toute façon, il faut cocher dans l'agenda la journée du 1er et du 2 février. 1er, 2 février, on a un cycle Banque Centrale Européenne, Fed et grandes publications, Amazon, Apple, Alphabet, toutes ces grandes sociétés, tout va arriver le même jour. Donc la question, c'est effectivement toutes ces nouvelles et peut-être des messages qui seront peut-être moins commandants que le marché, en tout cas, laisse transpirer aujourd'hui lorsqu'on regarde un peu l'évolution depuis le 1er janvier. La question, effectivement, est-ce que le 1er et le 2 février, avec ces annonces et grandes publications, ne sera pas une forme de signal de peut-être top court terme. Donc, il fallait vraiment être extrêmement vigilant par rapport à ces dates-là. Je pense que si on est un investisseur, qu'on est très content, vous vous rappelez la performance qu'on a sur notre portefeuille, qu'on anime régulièrement chez vous, lorsqu'on est à plus 12 ou plus 13 depuis le début de l'année sur un portefeuille 100% investi en actions, c'est vrai que c'est très tentant de prendre des bénéfices et d'attendre un peu ce passage où il y a une forme d'incertitude qui est le 1er et 2 février. Donc, ça serait un petit peu le conseil du jour.
Bon. Dernière question, public du jour aux États-Unis, Tesla a annoncé ses résultats, également IBM qui cartonne, l'un et l'autre vous rassurent, enfin, comment est-ce que vous voyez la suite par rapport à ce que nous disent Tesla et IBM aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie d'acheter ces valeurs? Quelle leçon tirez-vous des annonces de ces deux sociétés, Frédéric? Alors,
pour Tesla, non, je suis fondamentalement pas forcément acheteur pour un problème de valorisation, même si la nouvelle est... Et finalement, l'annonce qu'a donnée Monsieur Musk, la cadence de commandes est extrêmement favorable pour le coup sur la partie truck aussi. Tout est vraiment, tous les voyants sont au vert maintenant. On est dans un secteur, on le sait, automobile, sur lequel on a une vue assez globale et assez claire de la dynamique et les ventes par année. Et donc, lorsqu'on voit effectivement un Tesla aujourd'hui sur ses niveaux de valorisation, alors je dis pas qu'il faut pas le jouer en court terme. Fondamentalement, sur du long terme, ça, c'est une vraie problématique. Elle ne devrait pas valoir ce qu'elle vaut aujourd'hui si on considère que c'est un constructeur automobile. Par contre, si on considère que c'est autre chose, une entreprise notamment sur le stockage d'énergie, sur une capacité notamment de recherche, de développement, là, effectivement, il y a du gros potentiel. Donc, il faut vraiment savoir pourquoi on l'achète. Et aujourd'hui, Tesla, effectivement, connaît un beau rebond. C'est tout à fait logique par rapport à ce carnet de commandes qui nous rassure et cette dynamique qui a été prise commerciale par l'entreprise. Maintenant, voilà, il faut savoir quel est son vrai prix. Et je vous avouerai que c'est très difficile à estimer pour Tesla.
Et puisque vous évoquez Tesla, qui a baissé les prix d'un certain nombre de ses véhicules, est-ce qu'on se dit que la dégradation, du coup, quand même, des marges de Tesla, qui a été annoncée hier soir, va aussi, cette dégradation des marges, s'étaler, contaminer les autres constructeurs automobiles?
Alors, il y a eu un facteur assez intéressant, c'est que le secteur automobile a connu des pertes. On revient plus sur les niveaux de 2019. Donc, on a une contraction globale du marché automobile, mais lorsqu'on regarde un peu l'évolution du chiffre d'affaires, on n'a pas ce mouvement de contraction. Pourquoi ? Tout simplement parce que les prix ont eu tendance à très fortement remonter. L'électrification des véhicules a entraîné des niveaux de marge. Donc, c'est pas rare aujourd'hui de trouver des niveaux de marge de 12%, entre 10 et 12% dans le secteur auto. Je rappelle que, historiquement, le secteur auto, on était vraiment sauté au plafond quand on avait des marges à 6. C'était zéro et en haute cycle, c'était plutôt à 6. Donc, on voit bien que l'électrification a permis de remonter les prix, peut-être jusqu'à un niveau insupportable pour le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter un véhicule sur ces prix-là, dans un contexte inflationniste, tension salariale, c'est compliqué à tenir. Donc, oui, il y aura peut-être effectivement cette sorte de plafond de verre de niveau de rentabilité et des seuils sur lesquels la hausse des prix entraîne mécaniquement une baisse des ventes. Donc, il faudra surveiller ça. C'est une première indication. Tesla est un cas à part, puisqu'on est 100% électrique. Et il y a beaucoup de constructeurs qui sont encore dans des phases d'amélioration de la rentabilité opérationnelle. Je pense notamment à des acteurs comme Renault. Donc là, si cette trajectoire s'opère, voilà, pour un constructeur comme Renault ou d'autres, d'ailleurs, c'est pas les seuls, il y a encore de la possibilité d'augmenter les marges et les prix. Maintenant, la tendance veut effectivement qu'on arrive à une forme de plafond sur la tarification des véhicules. Donc,
merci.
On a peut-être atteint ce seuil-là avec les annonces de Tesla.
Merci beaucoup. Frédéric Rosier en direct avec nous depuis les bureaux de Mirabeau. Alors, Tesla à suivre. Le titre gagne 8% en ce moment à Wall Street. Et puis, IBM de son côté, alors c'est peut-être une surprise, le titre IBM est sanctionné, lui, moins 4% quasiment IBM, alors qu'IBM annonce son meilleur trimestre de croissance du chiffre d'affaires en 10 ans. Un chiffre d'affaires qui, au quatrième trimestre, a progressé de 6,7%. Meilleur perf en 10 ans, mais un titre qui recule de quasiment 4%. On va y revenir avec John Plassard. Tiens, on rejoindra John Plassard dans quelques minutes également. Merci beaucoup Frédéric. Wall Street est en hausse, le CAC aussi, plus 0,7%, 7096 points.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et Sabrina Sagui, nos équipes BFM Bourse, nous rejoint. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue en plateau. Merci. Évidemment, on peut consulter tous vos articles, les articles de nos équipes BFM Bourse sur notre site internet, bien évidemment. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore dit, mais si vous avez des questions ou des interrogations sur vos portefeuilles boursiers, vous pouvez aussi d'ailleurs nous les envoyer. N'hésitez pas à travers ce QR code qui apparaît tout au long de l'après-midi. Vous pouvez le scanner, le flasher et nous envoyer ainsi vos questions. Tout à l'heure, Amaury de Tonquédec et son expert tenteront d'y répondre. Ce sera sur nos réseaux sociaux après 18h. Vous en avez désormais l'habitude. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en scannant ce QR code ou encore par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et donc, rendez-vous pour le débrief tout à l'heure après 18h. Sabrina, on a coutume de parler ici des introductions en bourse, de la dynamique des introductions en bourse et de ce qu'elles signifient pour le marché. Là, on va parler des offres publiques qui, comme les introductions en bourse, ont du plomb dans l'aile. En tout cas, l'année 2022 n'a pas été brillante pour les offres publiques sur le marché parisien.
Et effectivement, Guillaume, ça n'a pas été un très bon cru aussi pour les offres publiques. On dit offres publiques, c'est offres publiques d'achat, offres publiques d'échange, offres publiques de retrait, enfin, voilà, tout cet univers-là. Et selon les deux baromètres publiés à la fois par EY, le cabinet, et la banque d'investissement à l'entrée, il y a eu un peu plus de 30 offres contre un peu plus de 40 en 2020 et en 2021. Ça marque quand même un petit ralentissement. Et il y a une tendance aussi, toujours sur Euronext Growth, hein, le fameux compartiment dédié aux petites et moyennes capitalisations. Il se passe beaucoup de choses dans ce compartiment. Il y a une hausse des offres publiques d'un niveau de record de 39% contre seulement 23% en 2021. Mmh. Alors l'explication qui est donnée par un des spécialistes d'une des études serait que ces sociétés seraient considérées comme bien moins valorisées car moins couvertes par les analystes.
Ah, ce qui expliquerait le mouvement. Les OPA en tout cas ont donc été moins nombreuses en 2022 sur la place parisienne, mais les montants, eux, Sabrina, ont quasiment triplé.
C'est ça, quasiment triplé, parce que c'est la valeur totale des actions acquises en 2022 qui a atteint un peu plus de 15 milliards d'euros, selon EY. Ça, c'est le décompte d'EY. Alors, c'est un montant qui marque une forte progression par rapport aux 6 milliards de 2021. Alors, pourquoi ? Parce que EY compte la méga OPA de Veolia sur Suez.
Ah oui.
Énorme. Et donc, en fait, elle a été déclarée conforme en 2021, mais comme elle a été finalisée en 2022, elle rentre dans le périmètre. En revanche, là, c'est le cas de EDF, qui a été annoncé en 2022, mais avec toutes les péripéties judiciaires.
Oui, l'OPA simplifiée de l'État sur EDF.
Exactement. Ouais. Ça rentre pas du tout dans le périmètre. Et on est quand même sur des montants assez conséquents, 9,7 milliards d'euros, en comptant aussi le rachat des obligations hybrides. Alors aussi, l'année 2022, c'est l'année des opérations d'envergure. On peut parler de la Banque Postale sur CNP Assurance. Oui. Grosse opération, ou bien Albioma qui a été racheté par le fonds d'investissement américain, et c'est le seul acteur étranger de 2022. Et aussi, on a aussi Lagardère avec Vivendi qui a racheté Lagardère.
Pour les actionnaires, est-ce que ces offres ont été particulièrement généreuses ?
Bah oui, Guillaume, aussi, les offres ont été plus généreuses. Les initiateurs ont mis la main à la poche. Alors pourquoi ? Pour convaincre les actionnaires d'apporter leurs titres aux offres. Alors la prime médiane, elle est un peu plus de 30%. EY et Alantra sont d'accord là-dessus, contre 25% en 2021. Alors pourquoi une telle générosité ? Bah, comme les cours de bourse ont baissé, avec la chute des marchés, à un moment, il faut donner une petite carotte aux actionnaires pour qu'ils donnent leurs offres, pour qu'ils apportent leurs offres à l'initiateur. Et aussi, une autre tendance à souligner, c'est que le profil des initiateurs, en parlant d'eux, a radicalement changé. Alors selon EY, il y a 9 sur 10, c'est l'actionnaire de référence. Alors, c'est une tendance qui est particulièrement marquée, notamment dans le secteur des entreprises de services et du numérique, qu'on appelle communément les ESN.
Donc, 9 fois sur 10, c'est l'actionnaire de référence qui initie l'offre.
Qui initie l'offre, selon EY. Hein. C'est ce que EY nous dit. Oui. Et les opérations de rachat dans ce secteur, donc des ESN, ont été souvent l'initiative des actionnaires fondateurs. On peut citer Group Open, Devoti, Marves. Bon, c'était pas en 2022, mais c'était la tendance dans ce secteur.
Et ce secteur, justement, des entreprises de services numériques, les ESN, risque encore d'être animé avec de nouvelles opérations en vue en 2023.
Alors, c'est déjà le cas depuis plusieurs années. C'est vraiment une tendance qui marque ce secteur. Et sur les deux dernières années, il y a eu pas moins de 10 opérations, car ce secteur, il est vraiment éclaté en France. Il y a de petits acteurs et ça peut intéresser des acteurs de plus grande envergure. Alors, par exemple, on a Sopra Seria, là, c'est en cours, qui a annoncé en juillet être entré en négociation exclusive pour acheter CS Group, pour être le spécialiste, pour être aussi, se renforcer dans les secteurs de la défense et de la sécurité. L'opération va être finalisée d'ici 2023. Et aussi, comme les possibilités de cible sont beaucoup plus réduites, et comme il y a moins d'intrants en bourse, il reste peu d'élus. Alors, par exemple, il y a certaines entreprises qui ont connu un parcours un peu difficile, ou qui sont jugées décotées comme Micropole, ou avec l'âge du capitaine qui avance, à l'image d'un fauteuil, c'est des dossiers qui pourraient être concernés par des opérations.
Il faut aussi regarder l'âge du capitaine, alors ça compte.
Exactement, oui.
Fait partie des autres variables boursières.
Tout à fait.
Sabrina Salghi et nos équipes BFM Bourse, vous proposez un papier, un article sur le sujet.
C'est déjà fait, il y a eu deux articles concernant les offres publiques.
Et vous pouvez donc les consulter, bien évidemment.
N'hésitez
merci.
Pas.
Sabrina Salghi. Salut Sabrina.
Merci Guillaume.
Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,7%, 7091 points. On a même touché tout à l'heure un nouveau plus haut depuis le 1er janvier. On va en reparler dans un instant. Étienne sera avec nous, Étienne Braque depuis la tour Euronext, puis on reviendra sur le marché américain et sur ce titre IBM, dont on n'a peut-être pas encore suffisamment parlé. IBM nous annonce une croissance record en 10 ans de ses ventes, de son chiffre d'affaires, mais le titre perd quasiment 4%. On vous expliquera tout dans un instant, juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.